11h midi. Studio B.
Studio B.
C'est qui, toi, frère?
Bah, c'est moi, ça.
Ah, vous connaissez pas?
Qu'est-ce que tu fous là?
Bah, j'en sais rien.
C'est pour l'annonce.
C'est vrai que vous cherchez les sparring?
Plus que du chômage, plus que du RSA.
Bon, vous, je retournerai pas à l'usine.
Je me bouge et je trouve un taf.
Mais t'es sérieux là, devant maman?
Je suis pas un ennemi de la liberté.
Moi, j'ai le droit de le faire, toi aussi,
t'as
le droit de le faire.
Faut que tu t'habilles correctement.
On est pas d'accord, on est pas d'accord.
Le temps de prendre votre envol.
Venez, suivez-moi.
Et le soleil est là, car je l'ai demandé.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM.
Avec un B comme bus scolaire. Bonjour, bienvenue dans Studio B, moi c'est Christophe. Et avec Camille, comme chaque dimanche, jusqu'à midi, on va parler de cinéma. Je te vois rigoler, Camille.
Oui, parce que je me demandais ce que tu allais trouver avec la lettre B.
Et ouais, j'en ai trouvé.
Et c'est pas mal.
Bus scolaire.
Je suis assez impressionnée.
Vous allez voir pourquoi quand on vous dira de quel film on va parler aujourd'hui. Bienvenue donc dans cette heure de ciné à la radio, jusqu'à midi. Comme on parle de ciné, on a choisi un film qu'on va mettre à l'honneur, comme chaque dimanche. Et puis il y a toute l'actu ciné, les sorties ciné. Pour commencer, après avoir accueilli notre invité, on va commencer donc par les sorties ciné de la semaine prochaine avec une comédie sur les religions, une histoire d'amour et de lutte contre le racisme aux USA et un film d'animation. Et Exit le JVJV Pack. Camille, on avait marre de faire peur aux réalisateurs avant que leur film ne sorte. Dorénavant, elle s'attaque aux chaînes de télé. Quel film faudra-t-il voir ou pas? Trembler TF1, Trembler France 2. Qu'as-tu choisi pour ton premier Je zappe pas.
Alors, j'ai choisi The Revenant sur France 2. J'ai envie de dire que ça commence bien. C'était un film pour moi.
Oui, bah, je me demandais pourquoi tu voulais changer la rubrique.
Oui, alors voilà, j'avais tout prévu depuis le
début. C'était parce qu'il y avait un film avec Leonardo DiCaprio. Bon. Donc voilà, il y aura les actus ciné. Ce sera
tout
à l'heure. À 11h30, juste après le box-office.
On va parler cérémonie, parce que, voilà, deux cérémonies, les Césars et les Oscars, puisque les nominations sont tombées cette semaine.
Ah,
donc, je vais vous révéler tout ça.
Révèle-nous tout ça. Ce sera tout à l'heure à 11h30. Le film de la semaine, c'est un film de prise d'otage, un genre particulier qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de traiter à Studio B. Mais c'est plus que ça, par le contexte. Déjà, nous sommes à Djibouti en février 1976. Et Djibouti, c'est alors la dernière colonie française. Et par le fait aussi que ce soit une histoire vraie et une histoire qui avait été étouffée par le pouvoir et par la presse à l'époque. C'est aussi une histoire de désobéissance et c'est presque aussi un film de guerre et c'est surtout l'histoire de l'avènement du GIGN. Le film, c'est L'Intervention, ça sort mercredi prochain. Camille, à toi de présenter notre invité de la semaine.
Il a étudié le cinéma à l'université de New York et a travaillé comme producteur avant de passer à partir de 2001 à la réalisation de clips et de publicités. Il a collaboré avec Jacques Audiard pour la réalisation de plusieurs génériques. Son premier long métrage, La Résistance de l'air, est sorti en 2015. Mercredi prochain sort donc son deuxième long métrage, L'Intervention. Fred Grivois, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur Beurre FM. La coutume dans Studio B, c'est de proposer à chaque fois à nos invités de choisir deux questions. Une question que vous avez envie qu'on vous pose, on vous la posera pendant l'émission. Et une question que vous n'avez pas envie qu'on vous pose, on est sympa, on ne vous la posera pas, mais il faut la dire quand même. Est-ce que vous avez vos deux questions, Fred Grivois?
Oui.
Ah,
alors oui, vous voulez dire.
Alors, la première, alors la question que j'aime bien qu'on me pose, c'est quand on me demande d'où je viens, parce que j'ai plusieurs nationalités, deux cultures proches et en même temps très différentes. Mmh. Et la question que je n'aime pas qu'on me pose, c'est si j'ai une obsession pour les tireurs d'élite, puisque c'est un point commun entre mes deux premiers films.
Ah oui, c'est vrai, Mathieu.
Oui, c'est vrai.
Bon, bah, alors, oui. On ne vous posera pas la question, d'accord.
Bon, j'avais peut-être prévu de la poser, mais...
Eh ben, tant pis, tu...
Vous pouvez, j'ai une réponse toute faite.
Je peux la poser de façon détournée. D'accord. On verra, on va s'arranger.
Ah, tu es sournoise, incroyable.
Et oui, bah oui, c'est tout moi.
Allez, toutes ces questions, et bien d'autres, c'est jusqu'à midi sur Beurre FM. On parle de L'Intervention, le film de Fred Grivois qui sort mercredi prochain. Vous écoutez Beurre FM, nous sommes le dimanche 27 janvier. Bienvenue dans le 81e numéro de Studio B.
Studio B, les sorties ciné de la semaine.
Mercredi prochain sort donc L'Intervention, mais aussi Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu.
Ouais, c'est un peu l'événement de la semaine, le retour du couple Christian Clavier-Chantal Lobby, un couple très vieille France, Camarillier et ses quatre filles, un black, Nungiawara, un rebeu, Mehdi Sadoun, un asiatique, Frédéric Chaud, et un juif, Harry Habitant. Alors ça c'était le premier film sorti en 2014 et qui est resté près de 5 mois à l'affiche, hein, qui a fait plus de 12 millions d'entrées. C'est vraiment des très très gros scores. Alors forcément, hein, ces scores-là appellent une suite, il fallait faire une suite, là voilà. Elle sort mercredi. On prend les mêmes et on recommence. Bande annonce.
On leur dit quoi au sujet des voyages? Moi, j'ai pas envie de les froisser. Je me dors politiquement correct.
Évidemment, évidemment.
Et l'Algérie alors?
Ah, j'ai beaucoup aimé Rachid.
C'est des paysans, hein?
Des paysans, pas besoin d'aller si loin. Hein. Faites un petit tour par Barbès et puis c'est kiff-kiff, comme on dit chez vous. Ouais. C'est du second degré.
Moi, ça m'a fait rire, quoi. Ah. Je supporte plus le politiquement correct.
Suce boule un jour, suce boule toujours.
rien de tel que notre beau pays pour apprécier la douceur de vivre.
Vous n'êtes pas d'accord?
Moi, j'ai du mal avec la France. Avec Odile, on a décidé de s'installer en Israël.
Toi et moi, on part en Chine.
Et nous, en Algérie,
on part à Bombay.
À Bombay? Quel rapport?
De faire carrière à Bollywood.
En Inde, le pays où les gens se prosternent devant les vaches.
J'ai la solution. Nos gendres n'aiment plus la France. On va leur faire aimer la France.
Mais qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, Claude?
J'en sais rien.
Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Ça sort donc ce mercredi, une suite qui joue sur l'humour religieux et ethnique, vous l'avez compris, des sujets assez casse-gueule, mais qui avaient été globalement bien reçus sur le premier. On s'en rendra compte en voyant le film. Sachez quand même que nous avions invité l'équipe du film dans l'émission et que le service presse a visiblement privilégié d'autres médias que Beurre FM pour faire sa promo, et c'est un peu dommage.
Si Bale Street pouvait parler.
Le retour de Barry Jenkins, le réalisateur oscarisé pour Moonlight il y a 2 ans, mis à part une volonté de faire des belles images, rien à voir avec le précédent film, puisqu'il adapte un roman sorti dans les années 70, une histoire d'amour à Harlem, une histoire d'amour brisée lorsque le jeune homme est arrêté et emprisonné. On l'accuse d'un viol, mais il n'a rien fait, et sa copine va tout faire pour réparer cette erreur judiciaire. Double lecture pour ce film, l'histoire d'amour donc d'un côté, mais aussi un point de vue sur les années 70 aux États-Unis, la manière dont les Noirs étaient perçus et les injustices de la société à cette époque, et peut-être même encore maintenant.
Minuscule 2.
Oui, le 2, alors c'est la suite de Minuscule, lui-même tiré d'une série d'animations très bien faite. Je ne sais pas si vous aviez vu le 1, le 1 était vraiment génial. Dans le 1, une fourmi et sa copine coccinelle s'étaient associées à une araignée pour une guerre contre des méchantes fourmis.
Mais quand son allié est expédié vers une île lointaine, une seule solution, reformer l'équipe de choc.
Voilà, cette fois-ci, la fourmi se retrouve dans un colis, direction la Guadeloupe.
Nouveau monde, nouvelle rencontre, nouveau danger.
Ben oui, car en Guadeloupe, il y en a des dangers, à commencer par plein de nouveaux insectes qui ne le connaissent pas. Alors ça paraît un peu naïf comme ça, et mon enthousiasme
oui, à raconter l'histoire du film. Oui, tu es très enthousiaste, je trouve.
Paraît peut-être un peu naïf aussi, mais c'est vraiment très drôle. Alors en plus, ce qui est intéressant, c'est la technique qui a été utilisée pour l'animation. C'est une technique originale. Les décors sont filmés en réel, donc ils commencent par filmer les décors, et ensuite, ils rajoutent au-dessus les insectes et tous les personnages en images de synthèse. Ça donne un mélange assez sympa, un mélange entre Microcosmos et un vrai film d'animation. Quoi. Donc le résultat est drôle et mignon. Allez-y, Minuscule 2, ça sort aussi ce mercredi.
À voir aussi cette semaine.
The Place, un film italien qui pourrait être la bonne surprise de la semaine. Un homme assis à une table de café a la réputation d'exaucer les vœux en échange d'un défi. Mais c'est souvent un défi qui peut aller très loin. Il peut demander de tuer des gens ou ce genre de choses. 10 personnes vont le voir. Jusqu'où iront-ils pour leurs vœux? Réponse dans The Place.
Sorry to bother you.
L'histoire d'un télévendeur dont la carrière décolle car il est très bon vendeur, mais grâce à une méthode pas très morale, le tout bien réalisé dans une ambiance street, réalisé par Boots Riley, qui est aussi un rappeur et un beatmaker américain.
Skate Kitchen.
Du nom de groupe de skateuses que va intégrer Camille, une ado new-yorkaise introvertie dont le skate va changer la vie. Voilà, Skate Kitchen, ça sort aussi ce mercredi. C'est une autre Camille qui est avec nous.
Ce n'est pas moi. Hein.
Oui, tu ne fais pas de skate.
Non, je n'ai pas
à New York.
Non,
voilà. Tu n'es plus ado
donc,
depuis longtemps. Tu n'es pas introvertie.
Voilà,
non, c'est vraiment pas toi. Il y a juste le prénom. on a changé. Pour ceux qui avaient l'habitude de nous rejoindre à 7h06, c'était le J'y vais pas, un film qui sort la semaine prochaine et que Camille vous conseille d'aller voir ou pas. Elle a changé. Elle a voulu passer sur la télé et faire trembler TF1, France 2 et toutes les chaînes du PAF. quel film as-tu choisi? Qu'est-ce qui est diffusé ce soir?
Alors c'est The Revenant sur France 2 à 20h50.
Ce soir.
Et pour cette première chronique dans Studio B, donc comme tu le disais, je vais parler de The Revenant, et c'est un petit peu le destin, j'ai envie de dire, parce que si vous me connaissez, si vous êtes fan de l'émission, et je sais que vous êtes nombreux, vous connaissez ma passion pour Leonardo DiCaprio. Leonardo qui a failli ne jamais jouer dans ce film, puisque au tout début du projet, donc c'est d'abord Park Chan-wook et non Iñárritu qui devait assurer la réalisation, et c'est Christian Bale et non Leonardo DiCaprio qui devait donc interpréter le personnage principal Hugh Glass. Ça s'est joué à ça. Que Léo n'est pas son Oscar. Oui, ce n'est que le début. C'est un premier Oscar. Il va en avoir plein d'autres, bien sûr. Plus important, ça s'est joué à ça que je ne le rencontre jamais. Parce que c'est pour ce film que j'ai enfin pu lui parler pendant 5 longues minutes.
Tout ça,
oui,
pour dire
5 longues minutes.
Ouais,
voilà. Je voulais le placer. Alors, ce film confirme que Léo est décidément plein de talent et qu'à chaque rôle, il s'investit à 200%. Il avait déclaré à l'époque avoir vécu le tournage le plus difficile de sa carrière. Et pour cause, il a dû traverser des rivières gelées. Il a également tenu, par souci de réalisme, à manger régulièrement du foie de bison cru. Voilà. Et cerise sur le gâteau, il a, comme son personnage à écran, dormi dans la carcasse d'un ours. Il est comme ça, Léo, il s'investit à fond dans chaque rôle. Dans Django Unchained, il s'était ouvert la main en cassant un verre pendant une scène, et il a pourtant continué à jouer alors que sa main était en sang.
Quel héros.
Je vous aurais bien conseillé de voir ou de revoir ce génie d'interprétation et de réalisation, bien sûr, sur grand écran, mais France 2 nous fait le cadeau ce soir quand même de passer ce film. Donc restez sur votre canapé, sous votre plaid, et branchez-vous sur France 2 à 20h05.
N'oubliez pas qu'il y a Tom Hardy qui fait une performance incroyable aussi.
Exactement. Et à la base, ça devait être un autre acteur aussi, dont j'ai oublié le nom, mais voilà, le casting s'est modifié
comme
au fur et à mesure.
Des fois, entre le casting original et le casting final, il y a du changement, mais ça reste quand même un très très bon film.
The Revenant,
ce soir sur France 2.
Studio B, l'interview.
Et voilà notre interview de la semaine. Notre film qu'on a choisi sort mercredi prochain, c'est L'Intervention, c'est votre film. Fred Grivois, de quoi parle ce film ?
Il raconte l'histoire vraie de la prise d'otage de l'OIADA en 1976 à Djibouti.
Tout simplement.
Tout simplement, voilà.
Et la création du GIGN, et voilà.
Après La Résistance de l'air, c'est votre deuxième donc long métrage. Pourquoi vous êtes intéressé à ce sujet particulièrement ? Qu'est-ce qui vous a amené vers ce sujet ?
Alors, en fait, j'avais commencé à travailler dessus avant de faire La Résistance de l'air. Et puis voilà, le projet s'était pas fait à l'époque pour plein de raisons. C'est toujours un peu comme ça dans le cinéma. Et puis on m'avait proposé La Résistance de l'air. Et après La Résistance de l'air, voilà, l'idée est revenue sur le tapis. J'ai rencontré un producteur que l'histoire passionnait, qu'il la connaissait déjà. Et voilà. Et on est parti comme ça.
Comment vous en avez entendu parler de cette histoire ? Parce que, comme l'a dit Christophe en présentant le film, c'est une histoire qui a été un peu étouffée.
Ouais, qui a été un peu étouffée parce qu'elle posait des problèmes politiques assez complexes à l'époque. C'est un des tireurs sur place, ce jour-là, qui me l'a raconté.
Ah oui ?
Ouais, et j'y croyais pas, en fait, au début.
Vous avez rencontré un des tireurs ?
Je les ai tous rencontrés après, ouais.
D'accord, ouais.
Mais c'est un avec qui je travaillais sur un projet. Qui m'a dit « Ah, un jour, voilà ». Et puis, il m'a raconté son histoire et je suis un peu tombé des nues. Et j'ai commencé à faire des recherches. J'ai demandé, c'est l'année de ma naissance, donc j'ai commencé à demander autour de moi, parce que bon, forcément, je ne connaissais pas. Et personne ne connaissait cette histoire, ce que je trouvais assez fou. Parce qu'on avait eu la prise d'otage de Marignane qui était passée à la télé. Enfin, ces grandes histoires assez folles qu'on connaissait, surtout sur les forces spéciales françaises qui sont assez reconnues dans le monde entier. Mais celle-là, c'était un peu plus compliqué.
Vous dites qu'il y a eu très peu de presse à l'époque, mais il y a eu quelques articles quand même qui sont...
Ouais, il y a eu quelques articles. Paris Match avait fait un dossier pas mal. Le Nouveau Détective m'a beaucoup aidé dans pour l'article de l'époque, qui avait des dessins assez incroyables, pour l'établissement du scénario. Mais je crois que vous voyez où je veux en venir. L'article le plus complet, le plus détaillé était dans Minute.
L'extrême droite bien connue.
Voilà, et émaillé de commentaires plutôt racistes.
20 minutes, quoi.
Voilà, toutes les 5 phrases.
Minute, pardon.
Oui.
Et voilà, l'article était assez étonnant et c'était les seuls à révéler l'implication du KGB dans cette affaire.
Vous dites que vous êtes documenté, voilà, vous avez retrouvé des articles. Pour écrire le scénario, vous êtes vraiment basé sur les témoignages des tireurs qui étaient là-bas ?
Assez peu parce que la mémoire est ce qu'elle est et donc les gens se souviennent de choses. Je me suis aperçu en les interrogeant ou en interrogeant certains otages, c'était à l'époque, c'était il y a 10 ans, que certains racontaient des trucs et puis quand je leur racontais à un autre, ils me disaient « mais pas du tout, c'est moi qui l'ai fait
ah
ça
oui. ».
Mais ce qui est normal, je veux dire, oui. Quand on a vécu un truc comme ça, les histoires, et puis on les relit, et puis on vous les raconte, alors que vous y avez participé, donc tout commence un peu à se mélanger. Donc ce que j'ai fait pour écrire c'est une histoire qui est compliquée, il y a beaucoup d'intervenants, et je savais qu'il fallait la réduire, et donc, compresser... certains sujets qui étaient pas forcément importants mais dont il fallait quand même parler. Donc je suis plutôt reparti quand j'ai écrit le scénario il y a 3 ans de ma mémoire de 10 ans auparavant de quand j'avais fait les recherches sans me replonger vraiment parce qu'il y avait un livre qui était sorti aussi entre temps et je suis reparti en fait de mon envie de cinéma. Et puis j'avais ma co-scénariste elle refaisait le travail de recherche pour me dire non ça tu peux pas. Parce que ça s'est vraiment pas passé. Et je disais, ah, mais ça ferait une belle scène de cinéma. Ouais, mais non. Et donc, je suis reparti plutôt de ma mémoire et de mon envie. Et puis, j'ai revu les otages. Enfin, les anciens otages m'ont contacté pendant le montage du film. Et c'est là que j'ai appris qu'ils n'avaient jamais été reconnus comme victimes du terrorisme et qu'ils se battaient pour ça. Et en apprenant ça, avec le producteur, d'un commun accord, on a décidé de changer la fin du film, qui ne se terminait pas exactement de cette manière au départ, à la fois pour les aider et leur rendre hommage.
Oui, c'est intéressant, on va en reparler de ça, ils n'ont jamais été reconnus, on en reparlera plus tard dans l'émission.
Et on continue donc de parler de l'intervention, votre film, Frédéric Rivois, vous nous avez amené un souvenir du tournage, c'est la première fois qu'on nous ramène un souvenir comme ça, on vous montrera la photo sur la page Facebook de Studio B, on aura le box-office, on aura les actus, c'est le programme de Studio B jusqu'à midi sur Beurre FM, à tout de suite.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Camille.
Bon dimanche, merci d'être avec nous sur Beurre FM comme tous les dimanches entre 11h et midi, c'est Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. On prend un film et on en parle durant toute cette heure. Le film de la semaine, c'est L'Intervention, film de Fred Grivois qui sort mercredi. Si vous venez juste de nous rejoindre, voici à quoi ça ressemble.
Nobody move.
Border Somalia now.
21 otages, tous tes enfants.
Tu stop, you'll die.
Retenu par 4 terroristes entre la France et la Somalie. Va falloir montrer ce qu'elle a de spécial, votre unité spéciale.
There is nothing to negotiate. And I care about the children too. The children of my country. So they can be free one day.
Si la Somalie engage, ce sera un bain sans règle, les enfants mieux.
Alors c'est vous le cow-boy de la CIA.
Dans la Jeep à 2 heures.
Et c'est quoi? Tu es un KGB?
Plutôt KGB.
Vite, vite.
Les enfants, fermez les yeux.
Laisse ton arme.
Don't take another step.
Maintenant!
Shoot! No!
C'est pour ça qu'on a créé mon unité. Intervenir sans faire de mort. En tout cas pas dans notre camp.
Alors c'est quoi votre truc?
Un tir simultané. 5 fusils synchronisés. Une seule détonation. Quand tout le monde tombe en même temps, il n'y a plus personne pour riposter.
Prêt.
Bon, si on plie maintenant et on rentre à la maison, si on sauve ses enfants, ça vous décidez pas à moi.
Fred Grivois, pour votre film L'Intervention, vous parliez de votre envie de cinéma. Et en traitant un vrai sujet, une vraie histoire qui s'est réellement passée, où se trouve la frontière entre l'envie de cinéma et la réalité?
Alors c'est toujours un peu compliqué quand on écrit à partir d'un fait réel parce que on est tout le temps en train de se poser la question de qu'est-ce qu'on a le droit de trahir ou pas. Sachant ça, on est aussi là pour faire un film. L'affaire s'est déroulée en 34 heures. Moi j'ai qu'une heure et demie pour raconter mon histoire, donc de toute façon je suis obligé de faire des sacrifices et de modifier certains aspects pour des questions de rythme, des questions de même de compréhension de certains aspects de l'histoire. Donc je pars du principe que je ne suis ni journaliste ni documentariste et que nous, ce qu'on cherche quand on fait du cinéma et qu'on raconte une histoire vraie, c'est de toucher du doigt et de faire ressentir au spectateur ne serait-ce qu'une infime portion de l'émotion que les participants de la vraie histoire ont ressentie. Donc à partir de là, bah, y a des choses qu'on rend plus courtes ou avec plus d'impact qu'on exagère pour que ce soit plus compréhensible.
Est-ce que vous avez inventé des choses? Par exemple, le personnage de l'institutrice qui est interprétée par Olga Kurylenko. On se demande, on se dit, est-ce que vraiment cette femme est allée... parce qu'elle rejoint les enfants.
En fait, le personnage d'Olga, c'est deux personnages en même temps. Parce qu'à l'écriture, j'avais deux personnages qui étaient un peu redondants l'un par rapport à l'autre. Donc il y avait le chauffeur du bus qui s'appelle Jean-Michel Dupont, qui était un jeune appelé, qui avait 18 ans. Qui restait avec les enfants pendant toute la prise d'otage. Et au bout de... Quand est arrivé, la nuit est tombée, une assistante sociale qui travaillait sur la base de la Légion à Djibouti, de son propre chef, comme dans le film, est montée dans le bus. Elle s'est portée volontaire. Et ils sont allés s'occuper des enfants et ils s'en sont occupés tous les deux. Mais j'ai regroupé ces deux personnages et ce qui leur arrive dans le personnage de le gars. Voilà, un très bon exemple de ce qu'on fait en termes de
oui, c'est adapté,
de trahison du fait réel.
Courageuse et effrontée l'institutrice.
Ah, complètement. C'est ce qui avait beaucoup plu à Olga dans le rôle. Et puis c'est un peu ce que parce que le personnage de l'assistante sociale, elle est décédée il y a longtemps. C'était difficile de trouver des témoignages, mais de ce que me disaient les anciens otages et de ce que j'avais pu comprendre, elle était assez courageuse et surtout, elle tenait tête au preneur d'otages, au terroriste, sans le, sans.
Oui, c'est ça qui est incroyable. Et il y a une certaine, il y a une certaine douceur avec les enfants. Et c'était un personnage aussi. Vous vouliez ce personnage pour qu'il tranche aussi avec les tireurs d'élite qui sont eux plus.
Ouais, c'est-à-dire que
plus froid.
Elle est presque plus dans le réel. Eux sont, les tireurs sont un peu plus dans l'abstraction. Puis surtout, j'avais une dualité, c'est que j'avais une bande de mecs assez testostéronés.
Oui.
et puis il faut les voir entre eux, ces acteurs, parce qu'il y a, toujours un concours de celui qui a les plus gros biscottos. même si
c'est bien dit,
on va dire ça.
Ils se sont très bien entendus. Et d'ailleurs, ça, c'était un truc hyper important, c'est que je savais que le film ne pouvait marcher que si les garçons s'entendaient entre eux, ça se verrait à l'écran. Je pense que ça se voit. Et d'ailleurs, tous les soirs, ils se retrouvaient dans la chambre de l'un d'eux, ils faisaient des tournois de PlayStation. Ce qu'ils continuent à faire encore maintenant, un an et demi après le tournage, ils se retrouvent, ils sont restés assez potes. Et ça, c'était très, 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 très important. Et il y avait cette dualité, effectivement, Olga est, c'est une des femmes, c'est une femme forte, c'est le personnage principal du film. Il y a un autre personnage de femme dont on parlera après, mais c'était important qu'elle, elle soit, ouais, qu'elle soit à la fois effectivement d'une grande douceur avec les enfants, un peu plus dure avec les preneurs d'otages, mais sans jugement, parce que c'est pas
ça.
Son problème.
On parlait du casting justement, donc votre film repose vraiment sur ces personnages parce que, comme vous dites, ça a duré 34 heures et on sent cette ce temps qui s'étend. Et comment vous avez trouvé vos acteurs? Est-ce que Alban Lenoir, par exemple, est-ce que c'est quelqu'un à qui vous pensiez
Ouais, Alban, je le connaissais. On n'avait jamais tourné ensemble. Il m'avait envoyé un message sur les réseaux sociaux juste après La Résistance de l'air en me disant qu'il avait beaucoup aimé le film et que ce serait bien qu'on se rencontre. Et on s'était rencontrés et l'idée commençait à émerger de l'intervention. Et je lui en avais un peu parlé comme ça. Je savais pas encore à l'époque si ce serait lui qui ferait le rôle de principal de côté tireur d'élite. Et puis ça s'est imposé comme ça de manière assez naturelle. Ensuite, le personnage qui est campé par Mickaël Habitboul, je l'ai écrit pour lui.
Ah d'accord.
Je ne le connaissais pas, mais comme j'avais une idée assez précise visuellement du personnage, voilà, ça me paraissait évident. Et puis les autres castings réguliers. En tout cas pour la bande de garçons.
Parce qu'il y a aussi Vincent Pérez et Josiane Balasco.
Alors, Vincent Pérez avait tourné dans mon premier court-métrage. C'est devenu un grand ami avec le temps. Et j'adorais l'idée de lui faire jouer ce personnage de général de la Légion. Et il y avait un truc dont on parlait qui nous faisait un peu marrer, c'est d'avoir un ancien jeune premier face à une bande de jeunes premiers d'aujourd'hui. Et qu'il y avait un truc en opposition comme ça, et il y a une opposition dans le film. Après, ils se sont hyper bien entendus, hein, mais c'était rigolo de les opposer pour créer un peu de tension. Ensuite, Josiane Balasco, le rôle était écrit pour un homme. Non, c'est pas tout à fait vrai. J'avais pensé d'abord à un homme parce que à cette époque-là, il y a peu de femmes dans les cabinets ministériels. Et en politique.
Elle joue le rôle d'un vrai décideur de l'armée. Ouais, quoi.
Elle joue le rôle d'un conseiller de l'ombre dans la présidence de la République. Enfin voilà, ouais, de l'armée, on ne sait pas trop. En fait, elle regroupe tous les enjeux politiques qu'il y avait à l'époque. Et puis, c'est vrai qu'au départ, je me disais c'est un homme. Et très vite, en fait, je me suis rappelé qu'à cette époque-là, il y a deux femmes en politique qui sont en train d'émerger et qui sont des femmes très très fortes. On a Marie-France Garraud plutôt à droite et Simone Veil plutôt au centre-gauche. Et donc elle représente un peu ces deux femmes-là. Et donc très vite, quand j'ai dû vraiment écrire le rôle en profondeur, j'ai pensé à Josiane qui, quand elle est arrivée sur le plateau et a essayé son costume, elle m'a regardé, elle m'a dit « Mais c'est le costume de Madame Musquin ?» Et je lui ai dit « Ah bon, tu trouves ?» Elle me dit « Ouais, ça ressemble quand même pas mal. Mais c'est pas grave, parce que déjà à l'époque, quand j'ai composé le personnage de Madame Musquin, je m'étais déjà inspiré de Simone Veil. »
Ah oui, d'accord. Voilà. Madame Musquin dans Le Père Noël est une ordure.
Dans Le Père Noël est une ordure, qui est un rôle qui est quand même comique. Pas du tout. Puis je pense que ça la faisait bien rigoler de jouer un rôle comme ça, assez sérieux. assez dure.
Oui, parce qu'on la voit pas beaucoup, mais elle est marquante quand même.
Ouais, parce qu'elle elle représente l'État français et son manque de comment dire, son manque de décision et un peu la peur politique d'un enjeu tel que cette intervention, quoi.
Puisqu'il y a forcément beaucoup d'enjeux politiques, hein, on rappelle le contexte, 1976, Djibouti, dernière colonie, et puis les enjeux, on va en parler avec une sur fond de guerre froide quand même.
Studio B, l'actu ciné.
Mais là, c'est l'heure de l'actu qui commence avec le box-office. Et c'est Glass qui est en tête du box-office France cette semaine. Le thriller suite de Incassable et Split de M. Night Shyamalan a été choisi par 540 000 personnes la semaine dernière. Creed 2 et Les Invisibles descendent donc d'une marche, mais restent deuxième et troisième avec 435 et 300 000 spectateurs supplémentaires. Parmi les sorties cinémas de la semaine, l'incroyable histoire du facteur cheval démarre plutôt bien, quatrième avec 256 000 entrées. C'est moins bien pour Ben Isbach avec Julia Roberts, Double Vie avec Guillaume Canet et Juliette Binoche, et Colette qui sont 10, 11 et 12e aux alentours de 80 000 billets vendus. Et petit tour aux États-Unis où là aussi c'est Glass qui domine le box-office avec 40 millions de dollars de recettes. The Upside, la version US d'Intouchable, résiste bien en engrangeant 15 millions de dollars supplémentaires, mais ça ne sera pas le gros succès comme l'original en France. Et puis Aquaman ferme le podium aux États-Unis avec 10 millions de dollars de recettes en plus. Semaine particulière dans l'actu ciné, puisque c'est la semaine où tombaient les nominations des Césars, et le grand bain et jusqu'à la garde sont en tête des nominations.
Oui, c'est mercredi que les nominations sont tombées. Donc la comédie Le Grand Bain de Gilles Lelouch, après avoir attiré plus de 1,4 million de spectateurs, décroche 10 nominations, parmi lesquelles meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur acteur dans un second rôle pour Philippe Catherine et Jean-Hugues Anglade. Alors dans un tout autre genre, Jusqu'à la garde, qui aborde les violences conjugales de Xavier Legrand, repart également avec 10 nominations, dont celui de meilleure actrice pour Léa Drucker. Donc verdict le 22 février prochain. La cérémonie sera présentée par Kad Merad.
Ah bon, on va se barrer.
Ouais. Et c'est Christine Scott Thomas qui sera la présidente.
On pense aussi aux oubliés de cette année.
Et oui, il y en a eu pas mal. Donc on pense à Mektoub My Love d'Abdelatif Kechiche, qui a été nommé qu'une seule fois dans la catégorie meilleur espoir féminin pour Ophélie Beau. Même sort pour Christophe Honoré et son film Plaire, aimer et courir vite, qui ne décroche qu'une nomination pour Denis Podalydès, pareil meilleur acteur dans un second rôle. Et le grand absent quand même, c'est Roma d'Alfonso Cuarón, qui vous allez voir pourtant est très présent aux Oscars, mais en fait il est sorti sur Netflix, donc il n'est pas éligible aux Césars.
C'est ça, donc les Césars restent sur les films qui sont en sortie ciné.
Exactement.
Il y avait une ouverture sur le festival de Cannes et une polémique, mais pour les Césars en tout cas pour l'instant c'est comme ça.
Voilà.
Du coup Netflix va se rattraper aux Oscars, puisque Netflix remporte le jackpot du côté des Oscars, en tout cas du côté des nominations pour commencer.
Bah oui, puisque donc mardi, la 91e édition des Oscars a dévoilé ses nominations à son tour. Donc l'Académie, cette année, met vraiment à l'honneur la plateforme de streaming, puisqu'elle décroche 15 nominations. Donc le drame américano-mexicain de Netflix, Roma, d'Alfonso Cuarón, réalise le tour de force d'être le film le plus nommé, avec 10 nominations, dont meilleur film, bien sûr. Il arrive ex aequo avec La Favorite de Yorgos Lanthimos. On retrouve tous les favoris en fait qui avaient été nommés aux Golden Globes, comme Rami Malek, l'interprète de Freddie Mercury, qui a quand même de grandes chances de repartir avec la statuette. La cérémonie aura lieu le 24 février et par contre on sait toujours pas s'il y aura un présentateur.
Ah bon? Pourquoi il n'y aurait pas de présentateur?
Parce que Kevin Hart devait présenter et en fait ça a été annulé vu qu'on a découvert des propos homophobes de sa part.
Ouais.
Qu'il avait dit il y a très longtemps. Et du coup, ils n'ont pas encore recruté de présentateur.
Bon, il y en aura bien quand même.
Oui, suspense.
Pas forcément.
Bah ouais,
c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé.
Ah, oui,
je crois que c'était en 92.
D'accord.
Ils n'avaient pas eu de présentateur.
Ouais. Oui, en fait, c'est les personnalités viennent présenter les prix et puis il n'y a pas
juste
forcément. Voilà.
Ouais. Bon. Au pire, on y va. Hein. Si on nous paye le billet d'avion, on est dispo. Hein.
Alors, nous, on est dispo, c'est vrai, on va passer le message.
Moi,
on est libre.
Moi, je fais la VF, tu fais la version anglaise, et puis on le fait
parfait.
Comme ça.
Ça va bien se passer.
Trois infos en bref pour terminer.
Après Bird Box, qui a attiré énormément de monde sur Netflix, Sandra Bullock retrouvera donc Netflix pour un film de science-fiction. Mauvaise nouvelle, Bryan Singer, le réalisateur de Bohemian Rhapsody, qui est un des favoris des Oscars, est accusé d'abus sexuels sur mineurs.
C'est une sorte de révélation, ça ne cessera jamais.
On en découvre tous les jours. Ouais. Et bonne nouvelle pour les fans de Transformers, une suite de Bumblebee est en développement.
Ah oui, mais voilà. Transformers Bumblebee, c'est pas complètement la même chose.
Ah bon? Je sais pas.
C'est pas complètement la même chose. Bon,
mais si, ça fait partie de l'univers de Transformers.
Oui, ça se transforme
Bumblebee.
Beaucoup. Oui.
Bah oui.
En tout cas, pour les fans de Bumblebee, c'est
et
bien.
De Transformers.
Et de Transformers. Bon, pour ceux qui aiment les voitures qui se transforment, quoi. Voilà.
Voilà.
Allez, on continue ce Studio B qui est consacré au film L'Intervention, votre film Fred Grivois qui sort mercredi dans les salles. Vous nous avez ramené un souvenir du tournage. On va vous mettre la photo sur la page Facebook de Studio B dès maintenant et vous nous en parlez juste après. Et on a aussi choisi des critiques qui sont parues dans la presse et ça vous donnera l'occasion d'y répondre. Restez avec nous, Studio B, c'est jusqu'à midi sur Beurre FM.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Camille.
Et si vous nous joignez à l'instant, bienvenue, vous écoutez Beurre FM, c'est Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Tous les dimanches entre 11h et midi, on parle d'un film et le film de la semaine, c'est l'Intervention.
Studio B, la revue de presse.
Et on commence cette partie par la revue de presse, des articles qui sont parus dans la presse. Alors pour le coup, j'ai pas trouvé beaucoup d'articles dans la presse puisque le film n'étant pas sorti, il sort mercredi dans les salles. Pour l'instant, j'ai trouvé qu'une seule critique, en tout cas sur Internet. Elle est très longue. Il y a plusieurs parties, une partie positive, une partie négative. Donc c'est pas mal. Vous allez pouvoir répondre à tout ça. C'est sur avoiralire.com. Et c'est Frédéric Mignard qui écrit: le film est un bel hommage aux tireurs, à leur attitude héroïque. Ces hommes de l'ombre, traités par le mépris, par la hiérarchie, risquent leur vie dans des conditions d'action inhumaines et ne sous-estiment jamais le prix de chaque vie qu'ils vont ôter dans le camp ennemi. Ce ne sont donc pas des machines à tuer, incapables de réfléchir et de recourir à leur libre arbitre. Est-ce que c'est vraiment ce que vous avez voulu dépeindre d'eux?
C'est la vérité concernant le GIGN, en tout cas. S'engager pour la vie, c'est leur devise. Et je crois que c'est un des seuls groupes d'intervention, voire le seul groupe d'intervention, qui considère que la vie du preneur d'otages a autant de valeur que celle des otages.
Oui, c'est dit à un moment dans le film.
Et ils sont pas entraînés, étonnamment, à tuer, contrairement à ce qu'on pense. Ils sont entraînés, comme ils disent, à stopper.
Après, ils disent quand même dans le film, ils sont là pour tuer, pour qu'il n'y ait pas de mort de leur côté.
Voilà. En tout cas, ce jour-là, quand on est venu leur dire on tire pour tuer, il y en a quelques-uns, et ça, moi, ils me l'ont raconté, à qui ça a posé problème, parce qu'ils n'étaient pas entraînés à ça. Et que oui, ça a tourné un peu au carnage. Et c'est ce qu'on voit dans le film d'ailleurs, que ça leur a pas plu du tout. Mais qu'à un moment il n'y a pas le choix et donc ils sont entraînés pour, donc ils y vont. Mais c'est apparemment qu'aujourd'hui, quand on discute avec des policiers ou des gens de il y a une espèce de hiérarchie en fonction de qui vient vous sauver. Si c'est le GIGN, a priori tout le monde sera vivant. Oui. Si c'est le RAID, c'est que on veut les otages vivants, mais a priori
les
forcenés ne s'en sortiront pas. Et puis après, ça descend avec quand il y a vraiment plus, quand on sait vraiment pas comment ça va se passer, on envoie encore un autre.
Il y a plusieurs méthodes.
Voilà, c'est un truc qu'un policier m'a raconté en fait. Il m'a dit, voilà, si t'es pris dans un truc et que tu sais que c'est le GIGN, là tu peux
te détendre.
Par contre, si c'est, je dirais pas le nom de ce groupe, là tu peux vraiment flipper.
D'accord, ok. Vous me le direz
en antenne.
En même temps, on n'a pas spécialement prévu d'être prendre l'otage.
Non, mais bon, si ça arrive, voilà.
On continue la critique qui est parue sur avoirarrière.com, Frédéric Mignard toujours, qui écrit: la dichotomie blanc gentil colon et noir méchant indépendantiste dans un jeu de guerre effroyable n'est pas des plus faciles à avaler. À vrai dire, la réalité africaine vaudrait bien que l'on s'intéresse aussi à ce qui se passait dans l'autre camp pour éviter tout manichéisme primaire dans la lecture du film.
Oui, alors ça,
vous y attendiez, j'imagine.
Non,
je
m'y attendais. On y a beaucoup réfléchi. Alors d'abord avec Kevin Lane qui joue le. Moi j'avais. Alors je vais raconter un truc, c'est que sur le tournage j'avais interdit à toute l'équipe de dire le mot terroriste quand on parlait des preneurs d'otages. D'abord le terrorisme à l'époque est très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Il est beaucoup plus politique et il est pas.
Oui, c'est le terrorisme de l'extrême gauche, etc. Voilà.
Il est pas du tout suicidaire. C'est des gens qui se battent. En général, pour avoir un pays, contre une oppression qu'on qualifie de terroriste, mais ils ne le sont pas. C'était des acteurs anglais, donc en anglais on dit freedom fighters, combattants de la liberté. Et donc voilà, sur le plateau, si quelqu'un disait le mot terroriste, il y avait une petite boîte et il devait mettre un peu d'argent dedans. et on disait les indépendantistes, on disait. Je pense que avec Kevin, on a vraiment travaillé, et même avec Olga d'ailleurs, sur l'idée que ces gens se battent pour un pays. On voit avec son personnage que c'est quelqu'un qui avait un plan, qui n'a pas marché comme prévu, puisque l'idée c'était de passer la frontière de l'autre côté et après de demander une rançon, de demander certaines choses. Sauf que son plan a foiré et il se retrouve complètement lui-même, complètement dépassé par les événements. À chaque projection que je fais, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent ah bah quand lui il disparaît, on est quand même assez triste. On n'a pas forcément envie qu'il lui arrive ce qui lui arrive. Sans spoiler, enfin bon, vous imaginez, oui. Sans spoiler. Mais bon, je l'ai un peu fait.
C'est pas nouveau, donc ça va.
Donc je vois très bien. Après, là-dessus, je suis obligé de garder ce qui s'est vraiment passé. C'est-à-dire que oui. Alors le
ce qui reproche peut-être, c'est qu'il n'y ait pas le contexte en fait. Comme alors, on ne voit que ça, ben là, on a l'impression que les indépendantistes, du coup, c'est que des méchants. Alors que bon, non, on connaît l'histoire de la décolonisation.
Vous avez bien
etc.
vu que non, voilà. Puisque justement, il n'est pas ouais. si méchant que ça. Il dit moi aussi, moi je me bats pour les enfants de mon pays.
Exactement. Après, vous lui laissez quand même pas mal de dialogue.
Ouais, voilà, beaucoup pour qu'il explique. Le film se termine quand même sur une note assez, je pense. Aigre-douce, c'est-à-dire que on rappelle que Djibouti a eu son indépendance un an plus tard, donc il y a un peu un côté tout ça pour ça, tout s'est mort pour pas grand-chose, et puis je pouvais pas me défaire du fait que effectivement il y a eu entre 60 et 80 morts côté somalien, ça c'est alors le rapport de gendarmerie fait état de 8 morts. Mais le problème, c'est qu'après, ça devient comme si la France avait déclaré la guerre. C'est ce qui s'est passé. La France a déclaré la guerre pendant 15 minutes à un pays souverain, soutenu par Moscou, mais un pays souverain quand même. Maintenant, donner toujours l'autre côté, ça, c'est très compliqué. C'est-à-dire que c'est un autre film. C'est un sujet en soi qui est hyper intéressant. Moi, j'essaie d'aborder justement pour pas être trop accusé de manichéisme. Maintenant, je peux pas. J'ai fait mon choix, qui était celui de raconter le début du GIGN et cette bande de types un peu foufou, voilà, dont on s'attend pas à ce qu'ils soient des forces spéciales, puisqu'à l'époque c'était vraiment comme ça. C'est comme quand on fait un film, enfin je sais pas, quand Oliver Stone fait un film sur le Vietnam, ou Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino va pas de l'autre côté parce qu'il c'est pas son choix, il a pas forcément le temps, déjà le film est très long, mais il a pas le temps de nous raconter effectivement comment ça se passe du côté des Vietnamiens. Il y a très peu de films qui le font, et pourtant, bah, Voyage au bout de l'enfer est un chef-d'œuvre, Apocalypse Now aussi. Mais c'est effectivement, ça mériterait qu'on s'y attarde. Moi, c'était pas mon angle
sur la décolonisation de Djibouti, c'est un film sur la création du GIGN qu'à ce moment-là.
Et je pense que c'était important d'en parler, je pouvais pas faire cette économie-là, comme de parler du contexte politique international de l'époque pour l'expliquer à des plus jeunes, voilà.
Et pour terminer avec une note positive sur cette critique, on gardera du second film de Fred Grivois l'efficacité et la maîtrise du suspense, le charisme indéniable d'Alban Lenoir, on en a parlé, physique et intense, au centre d'un casting intéressant qui mérite qu'on s'y attarde. Voilà, une note positive pour terminer.
C'est un casting hyper intéressant, parce qu'il y a Michael Abitboul, Sébastien Lalanne, Guillaume Labbé, David Murgia, qui sont des acteurs assez géniaux, tous très différents, puisqu'on a David Murgia qui est plutôt un acteur de théâtre belge, donc il n'y a pas la même technique de travail que les autres, surtout vis-à-vis d'apprendre son texte.
Ah.
David, si tu m'entends.
D'accord, il y a un message personnel.
Non, mais ça apporte plein d'accidents géniaux, ce qui est hyper créatif. Mais voilà, respecter le texte écrit. Pas que je sois obsessionnel. Il y a des moments où ça part tellement loin que voilà.
C'est un autre film d'après.
Voilà, exactement.
Vous avez ramené un souvenir, on vous a demandé de ramener un souvenir du tournage. C'est un souvenir particulier. On a mis la photo sur la page Facebook de Studio B. Qu'est-ce que c'est que ce souvenir? Racontez-nous.
Alors, c'est une balle inerte. Donc, c'est ce qu'on utilise au cinéma.
Inerte, ça veut dire qu'elle ne
fonctionne pas. Elle a un petit trou sur le côté pour montrer que la poudre a été enlevée. Il n'y a pas d'amorce, donc elle ne sert à rien. Donc c'est un accessoire de tournage. C'est dès que vous voyez quelqu'un qui charge une arme, un pistolet ou quoi que ce soit au cinéma, c'est ce qu'on utilise. Maintenant, on a eu un petit souci sur le plateau parce que tourner au Maroc, c'est assez compliqué quand on arrive avec des armes,
oui, vous avez tourné
des
au
explosifs.
Maroc.
Et tout ça, et qu'on sait qu'on va faire des actions où il y a des voilà, c'est un peu compliqué. Et ce qui est normal. Donc on utilise des fusils démilitarisés, c'est-à-dire que si vous mettez une vraie balle dedans, il vous explose à la figure. C'est des fusils qui ne marchent pas. Et puis, comme on est au Maroc, en fait, on envoie tout est extrêmement contrôlé par les douanes, ce qui est normal, et par l'armée. Donc On envoie tout ça de Paris en fourgon blindé. Donc, le camion descend à Marseille. Il descend jusqu'en Espagne. Ils prennent un ferry et ils arrivent. Alors que nous, on voyage en avion, mais on ne peut pas se balader avec des fusils dans un
avion. Oui, c'est compliqué.
Et quand on est sur place, l'armée nous aide. Puisqu'en plus, nous, on avait besoin de l'armée pour des décors. On avait besoin d'eux pour certains véhicules. Ils nous ont énormément aidés. C'était un vrai plaisir de travailler avec eux. Mais aussi, quand on tourne avec ce genre d'objet, on a ce fourgon blindé qui est gardé nuit et jour par, je crois, 5 ou 6 soldats détachés par l'armée qui ont ce qu'on appelle la feuille de service. Donc, tous les matins, ils regardent les scènes qu'on va tourner et ils distribuent les armes, le nombre de balles dont on a besoin. Ah oui.
Même si c'est du faux.
Même si c'est du faux.
C'est hyper contrôlé.
C'est hyper contrôlé.
C'est étonnant. On le sait pas, ça, comme ça.
Non, mais dans des pays, justement, où le terrorisme potentiel est plus élevé que chez nous, c'est un peu normal que, voilà, ils veulent pas qu'il y ait des
trafics ou
des trafics ou ce genre de choses. Surtout, par exemple, si on vient avec des balles à blanc, il faut qu'on les ait, on peut pas repartir avec. Il faut qu'on les ait toutes utilisées. On m'a raconté qu'un sur le Mission Impossible de Tom Cruise qui a été tourné là-bas, il y a un des armuriers américains qui a voulu repartir avec ses balles à blanc. Il a été arrêté.
Il a fait quelques jours
de prison puisqu'il pensait que c'était en trafic. Donc nous, on est là. Alors donc, vous donnez tous les matins, vous venez chercher les armes qu'ils vous donnent. Mais ça va jusqu'au couteau, enfin tout ce qui pourrait servir d'armes. Et puis le soir, pareil, quand on a fini, on ramène tout. Ils font le compte et si tout est bon, voilà, c'est fini la journée. Travail, on peut repartir. On tournait à 30 minutes, 40 minutes de Marrakech dans le désert. Et un soir, on vient de tourner une scène d'action assez fatigante. On est bien crevé, le soleil est en train de se coucher. On a fini et il manque une balle.
Ah
aïe.
Voilà. Et là,
comment ça se passe alors?
Eh ben, on ferme le plateau. Plus personne n'a le droit de sortir jusqu'à ce qu'on retrouve la balle.
Ah oui.
Donc autant vous dire que quand on tourne dans le désert, dans le sable.
Ouais.
Dans un bus et qu'on a fait des explosions.
Elles sont toutes petites, hein. Elles étaient 4 cm de haut.
Et en plus, on avait un acteur qui lui avait été parti avant, donc il était retourné à l'hôtel. Donc on se demandait si c'était lui, oui. Il n'était pas joignable. On a réussi à le joindre. Il nous a dit ah non, mais pourquoi je repartirais avec une balle? Ça n'a aucun sens. On est resté comme ça 2 heures à attendre avec tout le monde qui cherchait. La nuit était tombée, donc tout le monde avait son téléphone portable. À fouiller dans le sable, autant vous dire que la scène est assez rigolote. Et on était crevés, on voulait rentrer. On a fini par parler. On a réussi à avoir l'autorisation en fait du général qui s'occupait de notre tournage, qui lui n'était pas sur place, de nous laisser partir, puisque de toute façon c'était une balle inerte qui manquait. Et puis le lendemain, on recommence à tourner. Et pendant les prises, je vois un type en combinaison rouge avec un détecteur de métaux qui passe dans le champ pendant qu'on tournait, qui cherchait la balle. Bip bip, ne trouvant rien, c'était complètement surréaliste et donc c'était les autorités marocaines nous avaient demandé. J'étais pas au courant et donc je vois ce type débarquer comme ça avec son détecteur de métaux au milieu d'une scène d'action avec des types qui courent dans tous les sens, des impacts de balles machin. Donc bon, on s'arrête, on reprend la scène et puis pendant le tournage de cette scène, Alban Lenoir d'un seul coup s'arrête, dit ah je crois que je l'ai trouvé. Et voilà. Et en fait, elle était tombée parce que on avait tourné une scène où quelqu'un rechargeait et elle était tombée dans une glissière du fauteuil du chauffeur du bus.
Ah.
Donc elle était même pas dans le sable.
Oui, c'est ça.
Pas dans le sable.
Mais heureusement parce que la retrouver dans le sable.
On l'a retrouvée.
Donc ça aurait été impossible.
C'est bien qu'il finit bien. Mais voilà, on a quand même passé 2-3 heures à attendre.
Et ça, c'est l'anecdote.
Une grosse journée de tournage par 52 degrés Celsius. On était bien crevés et on nous laissait pas rentrer à l'hôtel pour des raisons qui sont. Enfin, on était prévenus hein, puisque c'est comme ça que se font les choses. Mais bon, voilà, tout le monde n'était pas hyper content et c'est devenu un bon souvenir. Et à la fin, les acteurs me l'ont offerte, me l'ont ramené.
En souvenir. Comme quoi, vous avez pu revenir avec.
Ouais.
Finalement.
Oui, c'est ça. Vous ne voulez pas qu'on vous pose la question de pourquoi vous faites 2 films sur des terreurs d'élite, mais vous amenez une balle quand même, vous provoquez.
Oui, je provoque un peu. Non, alors ça, je...
En tout cas, il y a toujours un... Je vais détourner la question, vous allez voir. Il y a toujours un rapport entre l'homme et les armes dans vos films. Est-ce que ça vous obsède?
Oui, j'y avais pas pensé comme ça. Non, bien sûr, on peut.
Quelle arnaque, cette série.
C'est un hasard.
Ah, c'est un hasard, quoi.
C'est un hasard. Le sujet de la résistance de l'air me plaisait énormément. Mais dans la résistance de l'air, pour ceux qui l'ont vu, j'ai pris le tir olympique comme j'aurais pu prendre le ping-pong.
Ah oui. Ah,
okay. C'est pas le sujet principal. Ouais. Maintenant, oui. Alors moi, j'ai fait du tir très jeune parce que j'ai une double nationalité.
Dans un pays voilà, la question que vous vouliez.
On avait le droit de tirer. Et j'ai commencé, les premières fois que j'ai tiré avec, c'était de la compétition, au fusil, j'avais 8 ans.
Ah oui.
Mais après, je suis pas du tout un obsédé de ça.
C'est quelque chose avec lequel, vous avez grandi.
Ouais.
Et donc, d'où venez-vous, vu que c'est la question qui est, quelles sont vos deux nationalités?
Je suis franco-canadien, franco-québécois. C'est quelque chose dont je suis assez fier. C'est deux cultures très différentes et en même temps très proches que je transmets à mes enfants. Ma mère m'a transmise alors que j'ai grandi surtout en France, un peu au Canada pendant plusieurs années. C'est un grand souvenir, j'étais assez jeune et puis c'est très très différent d'ici.
Oui.
Et c'est quelque chose dont je peux parler très très longtemps parce que être comme ça de deux cultures, c'est vraiment une énorme chance. Et le Québec est un endroit riche et fort en culture. Avec l'accent et tout ça, avec plein de choses.
Tabernacle.
Voilà. Je peux prendre, je peux faire l'interview.
Ah!
Voilà, ah le début,
ah oui, il fallait le dire. On aurait fait ça.
Non, je propose de temps en temps, je dis, est-ce que pour certaines réunions de production avec des gens qu'on connaît pas, avec mon producteur, on se demande souvent avant, est-ce qu'on le fait pas entièrement au québécois juste pour voir la réaction?
C'est ça.
En général, les réactions sont plutôt bonnes. Voilà, c'est un accent.
Oui, ça attire la sympathie.
J'ai une culture assez forte dont je suis assez fier. Pas forcément Céline Dion, hein, mais il y a d'autres.
Mais il faut être fier de Céline Dion.
Il y en a d'autres. Il y en a d'autres que.
René.
Mais Robert Charlebois,
Gilles Vigneault.
Il y a des grands acteurs. Il y a un cinéma qui est super chouette.
Oui.
Voilà, c'est quelque chose avec lequel je vis. Et j'ai même épousé une femme qui a une double nationalité aussi. Donc il y a quelque chose là-dedans où...
On parle souvent de double nationalité, de double culture sur BFM. C'est ça que c'est intéressant aussi de tout ce qui est double culture. Et la culture franco-québécoise est aussi intéressante. Merci d'être venu nous voir, Frédéric Grivois. Votre film L'Intervention sort ce mercredi. On vous invite à aller le voir grandement.
Allez le voir.
Oui.
Voilà, l'émission, si vous l'avez ratée le début, vous pouvez la retrouver en podcast sur le www.beurrefm.net. On va mettre des photos sur la page Facebook, on va mettre des photos sur l'Instagram de Beurre FM. C'est fini par la radio, mais on continue donc sur les réseaux sociaux. On se retrouve dimanche prochain entre 11h et midi. Ciao!
Ciao!
Studio B, le magazine ciné de Beurre FM.